Supposons que dans 100 ans, la voiture n'existe plus. Et qu'un historien écrive un livre, alors les livres existent encore, un livre de 500 pages sur le Paris actuel en ne consacrant qu'une page à la présence des voitures. Ce serait bizarre, non ? C'est ce qui se passe un peu pour le 19e siècle et les chevaux. Les ouvrages généraux, disons grand public, qui nous parlent de la vie parisienne de l'époque, sont vraiment avares sur le sujet. Pourtant, on lit partout dans ces ouvrages généraux, que, et vous le savez sans doute, qu'en 1880, il y avait 80 000 chevaux à Paris intramuros, et qu'en 1900, il y en avait 100 000 à peu près. Ça faisait à peu près un cheval pour 30 habitants, à peu près. Je me suis donc demandé si l'on peut se faire une idée de la vie quotidienne parisienne au 19e siècle sans prendre ces nombres en considération. Au 19e siècle, le cheval de selle devenait rare, mais les véhicules à chevaux ont pris une grande importance dans la vie de tous les jours. Imaginons-nous piétons dans la circulation parisienne avec ces omnibus, ces tramways hippomobiles, jusqu'en 1880-90, ces fiacres, ces fardiers, ces haquets de 20 mètres de long transportant des troncs d'arbres, des pierres absolument qui pèsent des tonnes. Imaginons ces écuries dans les cours des immeubles, ces dépôts des compagnies d'omnibus dans la ville qui ont des écuries de 500 000 chevaux. Imaginons ces crottins de 80 000 chevaux ou 100 000 et leur odeur. Imaginons le marché aux chevaux, les abattoirs en pleine ville et la voirie de Montfaucon. Dans la première moitié du 19e siècle, le daguerréotype ne permettait pas de prendre des instantanés, donc on n'a pratiquement pas de photos de chevaux en action en tout cas. Et il n'y en a pas beaucoup plus dans la deuxième moitié du 19e. Alors il y a quand même des cartes postales de 1900-1910 par là, qui sont encore très diffusées, qui montrent des avenues et des boulevards avec une grande circulation, des omnibus, des tramways, des fiacres. Mais on n'en trouve presque pas qui montrant des charrettes ou des chariots qui encombrent des petites rues. Alors là, il y a 23 chevaux qui tirent une turbine. Voilà les pierres qui étaient transportées. Voilà, ça fait 20-25 cm. Alors plusieurs écrivains de l'époque ont dénoncé les désagréments dus à la présence de ces véhicules. Bon, déjà, à la fin du 18e, il y avait Louis-Sébastien Mercier, qui est vraiment un témoin intéressant de ce point de vue-là. Il y avait un gars qui s'appelait Henri Blatin. Il y a Crafty, dont on entendra parler par la suite. Il y a Maxime Ducamp, qui n'est connu que parce qu'il est l'ami de Flaubert, mais enfin, il mérite le détour. Eugène Sue, Émile Zola, Victor Hugo. Voilà, là, vous avez des illustrations de Crafty, un formidable dessinateur. Alors, évidemment, j'ai un petit peu cherché et heureusement, aujourd'hui, il y a quelques chercheurs qui s'intéressent au sujet, mais il n'y a pas pléthore. L'ouvrage de référence, c'est celui de Ghislaine Bouchet, Le cheval à Paris au 19... Enfin, entre des dates qui recouvrent un petit peu le 20e. C'est la plus citée, elle est citée absolument partout. Même M. Fierrot, dans son Histoire de Paris, la cite. À part ça, il y a des chercheurs, et il y en a trois qui m'ont beaucoup aidé dans ce travail. Il y a Sylvain Leteux, Éric Pierre et Nicolas Papayanis. Bon, il y a des sites web vraiment qui font un effort de présentation. Il y a Attelage Magazine et il y a le Piéton de Paris. Alors voilà, c'est un sujet qui m'a intéressé pour les raisons que je vous ai dites, mais pour d'autres aussi. J'avais un grand-père qui était cocher de fiacre avant d'être chauffeur de taxi. Ça a été une autre raison. Alors, il serait trop long et fastidieux de couvrir tous les aspects du sujet. Je me contenterai donc de parler de la circulation dans Paris, des marchés aux chevaux et surtout la vie et la mort des chevaux. Alors, la circulation dans Paris, j'en ai déjà parlé. En 1800, Paris intramuros, 550 000 habitants. En 1860, il y a eu tous les villages qui ont été intégrés. Ça a fait 500 000 de plus. Et en 1900... Paris intramuros avait 2 700 000 habitants. En 1850, il y a des personnes qui se sont amusées à compter le nombre de chevaux qui passaient dans un boulevard. Alors, par exemple, le boulevard des Italiens, il y avait à peu près 11 000 chevaux qui passaient par jour. quels étaient les véhicules à chevaux dans Paris, les véhicules hippomobiles, les omnibus, les tramways, les petites voitures particulières, les fiacres, disons le transport en commun par fiacre, dont on parlera tout à l'heure, les véhicules des métiers et du commerce. Presque tous les commerçants avaient besoin au moins d'une carriole, quoi. Des véhicules de paysans qui amenaient leurs produits de la banlieue, de la grande banlieue et même des départements limitrophes. Alors là, c'était des chariots ou des carrioles. Et ils repartaient avec des crottins pour l'engrais. Alors il y avait des fourgons, les magasins avaient d'énormes fourgons pour transporter leur matériel. Et ces fourgons servaient aussi pour les déménagements. La poste, évidemment, qui livrait le courrier 10 fois par jour, avait 123 tilburys, les tilburys, 120 fourgons à un ou deux chevaux. Il y avait des marchands de glace qui ont perduré jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y avait évidemment les ambulances. Il y a eu un service d'ambulance municipale très tard, en 1880. Enfin, bon, elles étaient tirées par des chevaux. Il y avait les corbillards. Bon, vous savez qu'il y avait au moins 8 classes de corbillards. Il y avait les véhicules hygiéniques, parfois surnommés torpilleurs, qui sillonnaient les rues de bon matin pour collecter le contenu des seaux hygiéniques et les transporter à la voirie de Montfaucon. Il y avait plusieurs voiries, mais la voirie de Montfaucon était la seule qui recevait ces produits. Enfin, les véhicules de char dont j'ai parlé tout à l'heure, qui transportaient des matériaux ou des marchandises. En plus de tous ces véhicules, qu'est-ce qu'il y avait dans Paris ? Ben, il y avait des convois de bœufs, de porcs, de chevaux, qui étaient conduits vers, avant les abattoirs de la Villette, vers les 5 abattoirs de Napoléon Ier, construits en 1818. Alors, le transport des Parisiens. Sous Henri IV, il y a eu des velléités de transport en commun. Pascal, oui, il n'a pas inventé la brouette. Mais il a proposé de créer des transports en commun à Paris dès 1662. Et avec la bénédiction de Louis XIV, il a promu l'organisation d'un réseau de carrosses à 8 places, à itinéraire fixe. Mais cette expérience, sans doute trop démocratique pour l'époque, a vite été remise en question par la grande bourgeoisie, la noblesse, et ça a duré à peine un an. Et il a fallu attendre le début du XIXe siècle pour qu'on réinvente les transports publics. Essentiellement, les transports publics, c'était les omnibus. Ils ont vu le jour dans les années 1830-1840. C'est un certain Stanislas Baudry qui a créé en 1828 une compagnie d'omnibus qui a exploité la fameuse ligne Madeleine-Bastille. Alors, les omnibus avaient 14 personnes et qui étaient tirés par 3 chevaux de front. Un grand nombre de sociétés a vu le jour par la suite, ça a bien marché, et en 1855, elles ont fusionné dans la Compagnie Générale des Omnibus, la CGO. Alors la CGO, c'était une société privée titulaire d'une concession délivrée par la ville de Paris, et elle a tout de suite exercé un monopole. En 1855, à la création, il y avait déjà 3300 chevaux et 2500 travailleurs. En 1900, 17 000 chevaux, 1000 omnibus, il y avait 45 lignes et 36 lignes de tramway. 280 millions de passagers dans l'année. C'est absolument considérable parce que maintenant, le nombre de tourniquets poussés dans les métros et les RER, donc de la RATP, c'est 1,5 milliard par an. Donc vous voyez, 280 millions, c'est énorme. D'autant plus que les quartiers populaires, surtout dans la première moitié du siècle, du 19e, ils étaient très peu desservis parce que peu rentables. Les travailleurs allaient presque tous au travail à pied. Alors quelques lignes d'omnibus, Madeleine-Bastille, Saint-Philippe-du-Roule, Gare de Lyon, Batignolles-Clichy, Odéon. Pour tous ces milliers d'omnibus, il y avait donc des dépôts, l'équivalent des garages d'autobus maintenant. C'était d'immenses bâtiments. Il y avait des écuries, des greniers à fourrage, des remises pour les voitures et des ateliers de réparation. Souvent, les greniers à fourrage étaient déplacés par rapport aux écuries. S'il y avait un incendie, et ça arrivait quand même relativement souvent, les chevaux étaient quand même un petit peu préservés. Donc je vous dis, c'était immense. On a quelques écuries qui restent à Paris, mais on n'a plus tellement de traces de tout ça. Alors il y avait, en plus de ça, donc des ateliers de construction de véhicules. Parce que tous les omnibus et tramways étaient construits par la CGO, par la Compagnie Générale des Omnibus, selon des règles imposées par la préfecture de la Seine. Alors les chevaux de la CGO, c'était essentiellement des percherons qui étaient choisis vers 4 ou 5 ans. Alors là, il y a un truc rigolo, c'est que le parcours journalier d'un cheval de la CGO, c'était 18,5 km. Il y a quelqu'un qui a dû, dans une archive, il a dû trouver ça, et dans tous les bouquins, vous voyez, les chevaux de la CGO font 18,5 km par jour. Il y a une remarque à faire sur les métiers, parce que quand vous regardez les bouquins de photos du 19e, alors on vous parle des petits métiers, c'est-à-dire les métiers qui étaient à l'extérieur, à la lumière, tout ça. Mais il n'y a aucun métier relatif au cheval. Les chevaux avaient des fers et il fallait changer les fers d'un cheval de la CGO tous les 4 ou 5 jours. Alors les chevaux travaillaient beaucoup et durement. Les roues, ces énormes véhicules avec les pavés qui n'étaient pas toujours très joints, c'était quand même très difficile. Ils devenaient inaptes vers 8-9 ans, c'est-à-dire qu'ils étaient opérationnels pendant 4-5 ans, quoi, pas plus. À la fin, ils étaient vendus à des cultivateurs ou à des commerçants. Alors il y avait beaucoup d'accidents, il y avait des fractures, il y avait des coups de chaleur, il y avait des maladies. La maladie la plus connue, c'est la maladie de la morve, une maladie infectieuse qui se transmettait très très vite. Et on voit partout des mentions de cette maladie. Chaque année, la Compagnie Générale des Omnibus envoyait 5 à 600 chevaux aux abattoirs. Et elle les vendait aussi, comme je viens de le dire. Malgré tout, les chevaux de la CGO n'étaient pas les plus à plaindre parce que la compagnie avait un règlement qui contraignait les cochers à exercer leur métier sans brutaliser les chevaux. Bon, il n'y avait pas que des omnibus et des tramways dans les rues, il y avait des petites voitures. En plus des voitures particulières, il y avait deux services de voitures publiques, donc du transport en commun, mais pour ceux qui avaient un petit peu plus d'argent. D'une part, les voitures qu'on appelait les voitures de place, des fiacres en général, qui étaient autorisées à stationner sur la place publique. Il y avait donc des stations en quête de clients, d'où leur appellation, les voitures de place. Et puis, il y avait d'autre part les voitures de remise. Ces voitures étaient parquées au dépôt d'un entrepreneur, dans une remise, d'où l'appellation. Alors, le client venait louer ses voitures de remise et il pouvait venir avec un cocher, ou bien sans cocher, pour une heure, une demi-journée, une journée, un mois ou plus. Les voitures donc de place. Les voitures de place avaient un numéro doré, et les voitures de remise avaient un numéro rouge. Alors il fallait acheter le numéro, comme les taxis, par la suite, achetaient un numéro, et c'était très cher. C'était de l'ordre de 1200 francs, alors qu'un un ouvrier était payé 5 francs par jour à peu près, un ouvrier qualifié, 5-6 francs. Alors, comme la CGO, une compagnie générale des voitures de place et de remise, fut créée la même année, en 1855. Et ça a été tout de suite un quasi-monopole des services de fiacre. 8000 chevaux, 2000 voitures de place, 1200 voitures de remise, 3000 cochers, 330 palefreniers, 130 selliers, 44 forgerons. Mais donc c'est l'époque de Napoléon III. Napoléon III voulait un empire libéral. Et en 66, quoi, donc 10 ans après, le monopole a été supprimé et la CGV, Compagnie Générale des Voitures, s'est transformée en société anonyme, la CGVP. Bon, il y a eu tout un tas d'histoires. Et les systèmes de taxes profitaient à la ville qui en avait besoin à cause des travaux de M. Haussmann. Alors, il y a vraiment un auteur qui mérite d'être lu. Alors là, franchement, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Maxime Ducamp, qui a publié en 1875 un ouvrage remarquable de documentariste. On peut utiliser ce terme-là. Justement, il y avait une lutte avec Flaubert. Lui, il pensait que pour parler de la vie, il fallait être documentaliste. Et Flaubert, non, il pensait que c'était la fiction. Mais il a quand même moins réussi que Balzac. Alors, on l'a ici d'ailleurs, les livres, puisqu'il y en a 6 volumes. Ça s'appelle « Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie pendant la seconde moitié du XIXe siècle ».
Le monopole de la Compagnie Générale des Voitures était singulièrement amoindri par les charges qu'elle acceptait. L'autorité municipale contraignit la compagnie à établir ses dépôts en dedans du mur d'enceinte et par conséquent l'assujettissait à l'octroi. De plus, elle exigeait un accroissement considérable de matériel et de cavalerie. D'autre part, l'annexion de la banlieue avait doublé les distances, mais le tarif restait le même et tel qu'il était en 1800. En outre, chaque voiture était frappée d'une taxe fixe de 1 franc par jour pour droit de stationnement. Par suite de ces mesures, il y eut du malaise dans la compagnie. Ce malaise ne fit que s'accroître avec le renchérissement des terrains, des loyers, des denrées, des fourrages, et il aboutit à la grève du mois de juin 1865. Il s'ensuivit un brusque changement de régime, et du monopole, on passa à la liberté absolue. Le décret du 25 mars 1866 dit expressément « Tout individu a la faculté de mettre en circulation dans Paris des voitures de place ou de remise destinées au transport des personnes et se louant à l'heure ou à la course. » La liberté en matière d'entreprise de voitures avait duré 3 ans, de 1793 à 1797. Il faut espérer que la nouvelle période, ouverte le 15 juin 1866, vivra plus longtemps.
Lisons aussi Joseph Méry, un journaliste de l'Univers illustré, en 1864, qui nous parle du sort des chevaux.
Le cheval de fiacre est déjà vieux lorsqu'il commence sa carrière. Il lui reste une légère couche d'épiderme sur les os. On aperçoit le squelette à travers ce léger tissu. Les poils ont été fauchés par le temps et le fouet. On découvre ça et là un bloc de mousse voilant une cicatrice, un furoncle, une rugosité hideuse. Les genoux, 100 fois couronnés, ont perdu leur protubérance charnue. La croupe a mis les angles à la place des contours. La queue n'a gardé que l'arête. Les 4 pieds ont perdu l'aplomb symétrique. Il reste dans la position désordonnée où les a placés le temps de repos. Le col décrit la ligne horizontale et n'a plus assez de vigueur pour soutenir une tête appesantie par la somnolence perpétuelle. C'est le fantôme d'un cheval somnambule dans sa plus parfaite dégradation. Tout irait bien sans la longueur démesurée des courses. Ils arrivent aux fortifications, il faut y retourner. Leur galère, c'est l'annexion. L'heure du chemin de fer va sonner, la gare est à 3 km de distance, mais on triple le pourboire, ça donne de la vigueur au bras du cocher, et l'on brûle la route. Enfin, on touche au but, l'attelage essoufflé va prendre du repos. Bah, un train express vient d'arriver. Un voyageur pressé saute dans la voiture, on l'attend à l'autre bout de Paris. Il s'indigne d'une lenteur qu'il croit volontaire. Il jure qu'il va supprimer le pourboire. Le cocher furieux se venge sur les chevaux.
Maintenant, je vais aborder les marchés aux chevaux. Catherine de Médicis, donc la veuve de Henri II, lorsque son mari est mort, dans le tournoi, là, a fait installer un marché aux chevaux au nord de la future place des Vosges. Mais Henri IV, donc, il a voulu cette place, exit le marché. Le marché qui a fonctionné de 1564 à 1604. Un peu plus tard, en 1660, un marché aux chevaux s'est installé au faubourg Saint-Victor, au lieu dit La Folie et Chalard, entre les actuels boulevards de l'Hôpital et l'actuelle rue du Mairie. On voit encore le pavillon pour les contrôleurs du marché au bas de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Le boulevard de l'Hôpital a été percé assez tôt en 1760. Le marché était donc au nord du boulevard de l'Hôpital. En 1811, ce marché est confié à la ville de Paris. C'était le seul marché à Paris de chevaux. J'ai agrandi un petit peu pour vous montrer ici l'abattoir dit de Villejuif, qui est sur l'emplacement de l'ENSAM, l'École nationale des arts et métiers. En 1965, le boulevard Saint-Marcel a recouvert l'emplacement du marché, donc plus de marché. Et il a été déplacé dans l'enceinte du marché au fourrage du boulevard d'Enfer, dans le triangle de l'actuelle rue Delambre. Le boulevard d'Enfer, c'est-à-dire l'ancien nom du boulevard Raspail, et puis le boulevard de Montrouge, l'ancien nom du boulevard Edgar Quinet. Mais il était beaucoup plus petit que celui de l'Hôpital. En 1975, un nouveau marché aux chevaux revient au boulevard de l'Hôpital, presque au même endroit, mais au sud du boulevard Saint-Marcel, dans le triangle boulevard de l'Hôpital, boulevard Saint-Marcel et l'actuelle rue Jeanne d'Arc. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ici, ils ont même représenté un hémicycle qui servait aux essais de chevaux de trait avec des carrioles et des choses comme ça. Le marché de l'Hôpital, le nouveau, était énorme. Il faisait 18 000 mètres carrés. On vendait des voitures, on vendait évidemment des chevaux et des chevaux de trait. Il y avait 1000 places de chevaux, des stalles pour 1000 places. La ville perçoit un droit d'entrée et de place. Mais alors, sur ces marchés, on vendait, paraît-il, essentiellement des chevaux tarés, éclopés ou réformés par l'armée, la CGO. Ils étaient préparés à la vente avec un soin particulier afin de cacher certaines tares ou des insuffisances. C'est la loi du maquignonnage. Seule la maladie constituait un véritable empêchement à la vente et les chevaux suspects étaient refoulés et mis dans une écurie de quarantaine. Alors c'était des jeunes enfants de 12, 13, 14 ans qui essayaient les chevaux. Dans la rue de l'Essai, si vous connaissez le quartier, la rue de l'Essai qui est une rue qui descend vers la rue Olivot. Et parfois, ils partaient. La police allait les rechercher. La réputation du marché était donc peu flatteuse. Eugène Chaput, dans un livre, Le sport à Paris, rapporte des évocations hautes en couleur. Ce marché, pour lui, était un bazar de défroques d'écuries, une grève où viennent aborder les épaves du naufrage d'un luxe éphémère, les débris d'une fortune écroulée. Crafty, encore lui, ce fanatique des chevaux méprisant le peuple, il a écrit un énorme bouquin, très très bien illustré, c'est-à-dire il raconte des anecdotes et il y a un dessin formidable. Il n'y va pas par quatre chemins, pour lui le cheval est digne de plus d'égards que le cocher qu'il conduit. Néanmoins, sa verve est incontestable et en plus, c'est un excellent dessinateur.
Dans un marché aux chevaux, situé dans un quartier absolument excentrique, le boulevard de l'Hôpital, le cheval de luxe ne se rencontre qu'à l'état d'exception. Le petit nombre d'animaux d'origine distinguée qu'on y amène n'y arrive qu'après une série d'aventures analogues à celles qui conduisent un fils de famille à se faire cocher de fiacre ou chiffonnier. Rien de plus pittoresque en effet que la foule des maquignons, le va-et-vient des chevaux, le mouvement des animaux qu'on présente, les efforts des chevaux de trait qu'on essaye à la montée sur un squelette aux roues enrayées, auquel se cramponnent des grappes humaines, et ces longues files de vigoureux percherons attachés à la queue leu-leu, conduits par un gamin, tout fier d'avoir à diriger un aussi beau convoi aux crinières enguirlandées et nattées.
Citons un article du périodique quinzomadaire L'Illustration du 5 février 1876.
Le marché aux chevaux qui se tient à Paris deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, offre, pour ainsi dire, un double objet d'étude. D'abord, c'est le rendez-vous de toutes les physionomies imaginables qui jettent partout une incroyable variété. Ensuite, ce dont on se préoccupe le moins dans le marché, c'est de la vente des chevaux. Au point de vue des transactions commerciales, ce marché est peu important. Mais si on l'examine sous un autre aspect, si l'on prend sur le fait toutes ces ruses de maquignons, toutes ces roueries, toutes ces luttes de diplomatie entre vendeurs et acheteurs, souvent entre dupeurs et dupés, qui se rencontrent sur cet étroit théâtre, il fournira un sujet d'étude des plus intéressants.
Mais le terrain où se trouvait le marché, au bas du boulevard de l'Hôpital, en face de la Salpêtrière, était trop intéressant pour la construction d'immeubles en cette période de spéculation. D'autre part, le marché rapportait peu à la ville, et lorsqu'il fut question de le déplacer, après de multiples réclamations des riverains, plusieurs arrondissements se sont proposés. Mais il est demeuré là jusqu'en 1905. La ville possédait des terrains en friche à côté des abattoirs généraux de Brancion-de-Croix. Ils étaient récents, de 1898. Il n'était pas question de construire des habitations en ces lieux insalubres et malodorants. Donc le nouveau marché municipal aux chevaux était construit assez tard, en 1905-1907, à l'angle de la rue Brancion et de celle des Morillons. Ces abattoirs et le marché fermeront en 1966 et sont détruits dans les années 74-75 pour laisser place au parc Georges Brassens qui abrite le marché des livres anciens, le samedi et le dimanche. Il y avait aussi, évidemment, des ventes de chevaux dans des établissements de luxe que connaissait très très bien M. Crafty. Les bourgeois fortunés n'allaient quand même pas faire leur marché de chevaux au boulevard de l'Hôpital, non. Heureusement, on trouvait sur la place de Paris des marchés de luxe. Ça permettait d'éviter le maquignon et son savoir-faire provoquant, souvent insupportable. Le Tattersall et le marché chéri, quel joli nom, étaient les plus appréciés des connaisseurs. Alors Crafty, évidemment, là il s'en donne à cœur joie et il y a toute une flopée de dessins. Intéressons-nous à présent plus directement aux chevaux encore. Une voiture, on lui met de l'essence et vas-y poupoule. Un cheval, c'est pas pareil. On peut lui dire vas-y poupoule, hein. Mais il lui faut du foin, de l'avoine, du maïs, il faut évacuer ses crottins, il faut le soigner. Donc c'est un sacré travail. Alors à Paris, il y avait donc des marchés à fourrage, il en a été question. Alors la production française ne suffisait pas. Les foins arrivaient par les cours d'eau. Il y avait 3 marchés à Paris. La circulation de ces chars était stricte. Voir un énorme chariot de foin traverser le pont Neuf, c'est quand même... Il y avait des ballots de foin ou de fourrage. Il fallait qu'ils fassent 5 kilos. Là, c'était un règlement. S'ils faisaient moins de 5 kilos, procès verbal. Et les marchés étaient éloignés du centre. Le marché de la barrière d'enfer dont j'ai parlé tout à l'heure possédait 36 greniers. Il y avait 150 voitures qui faisaient ce transport. Il y avait 10 voitures, par exemple, pour les halles. Et vers la fin du siècle, bizarrement, la création d'entrepôts et de domiciles a rendu inutiles les entrepôts publics. Celui de l'enfer, par exemple, a disparu, donc on l'a vu tout à l'heure en 85. Lisons Louis-Sébastien Mercier à propos des abreuvoirs.
Les quais qui bordent la Seine sont ouverts, en certains endroits, par des abreuvoirs qui servent aux chevaux et aux bœufs. Mais il arrive quelquefois des accidents, surtout dans les grosses eaux. Un cheval attaché à plusieurs autres s'avance trop avant et le courant l'emporte. Les chevaux, maladroitement attachés, se débattent et plusieurs périssent. Un bateau qui fermerait le bassin ou une balustrade aurait prévenu ces dangers. Cette petite dépense est encore à faire. Et plusieurs chevaux se noieront avant que le corps municipal cherche à remédier à cet abus.
Voici le texte indigné d'un vétérinaire parisien en 1830. Déjà.
Il est peu de pays où l'on maltraite autant les animaux qu'en France. Et c'est une chose déplorable que, particulièrement dans la capitale d'un pays aussi civilisé, tous les jours, on est sous les yeux des exemples d'une brutalité inconcevable. Cependant, il faut dire, pour l'honneur de notre pays, que ces coups que les charretiers, surtout de la capitale, ne cessent de donner aux malheureux chevaux qu'ils ont à conduire, sont dus à la peine que ces hommes eux-mêmes éprouvent dans l'embarras de diriger une voiture dont la charge est presque toujours trop au-dessus de la force des animaux et qui se trouve arrêtée toutes les fois que le terrain devient moins favorable au tirage. Il est donc probable que ces scènes de brutalité seraient moins fréquentes si les propriétaires de voitures voulaient un peu moins gagner ou si les règlements de police empêchaient de surcharger les voitures au-delà des forces présumables des animaux. Alors, le fouet de nos charretiers, qui, pour les faits, n'a point de pareil en Europe, deviendrait une arme presque inutile.
De Victor Hugo, vous pourrez lire la Mélancolia dans les Contemplations.
Qui date de 1856. Le pesant chariot porte une énorme pierre. Le limonier, suant du mort à la croupière, tire, et le roulier fouette, et le pavé glissant monte, et le cheval triste a le poitrail en sang. Il tire, traîne, geint, tire encore, et s'arrête. Le fouet noir tourbillonne au-dessus de sa tête. Et le roulier n'est plus qu'un orage de coups, tombant sur ce forçat qui traîne des licous. Mais il ne bouge plus, et sa force est finie, et les coups furieux pleuvent, son agonie tente un dernier effort, son pied fait un écart, il tombe, et le voilà brisé sous le brancard. Et l'on voit lentement s'éteindre,
humble et terni, son œil plein des stupeurs sombres de l'infini, où luit vaguement l'âme effrayante des choses. Hélas.
Un poème donc de révolte, en particulier pour les chevaux, mais pas seulement pour les chevaux. Donc voilà l'affaire. Les colliers des chevaux, objets de malfaçon, avaient un poids excessif et pouvaient peser jusqu'à 15 kilos. L'allègement et l'encolure réglable n'apparaissent qu'en 1880. Le frein mécanique des véhicules, qui aide quand même la circulation, fut imposé en 1852, mais seulement pour les voitures de transport en commun. Les chevaux étaient, comme on vient de le lire, souvent surchargés. Ils étaient battus, et en particulier avec le manche du fouet. L'accident le plus fréquent, c'était le brancard cassé, mais il arrivait qu'un cheval, à cause d'une trop lourde charge sur une carriole, se trouve suspendu entre les brancards. Bon, on doit néanmoins atténuer certains excès dans ces dénonciations, et Éric Pierre a écrit en 2004 un article traitant du bon et du mauvais cocher. Parce que les critiques du comportement des cochers et des charretiers viennent souvent des classes aisées. Auparavant, les cochers étaient des serviteurs, ils faisaient partie de la maison. Ensuite, ils sont devenus des prolétaires dans de grandes compagnies, CGO, CGV. Il existe un véritable conflit culturel entre les utilisations bourgeoises et populaires du cheval. Le sort des chevaux est loin dans la hiérarchie des préoccupations du peuple. Pour les catégories aisées, il s'agit de se déplacer, mais surtout de se montrer. Ainsi, lorsque Adolphe Thiers veut se lancer dans le monde, il prend des leçons d'équitation et il s'achète un cheval de luxe. Mais c'est à partir des souffrances des chevaux que se sont développées les actions qui ont conduit dès les années 1840 à la création de la Société protectrice des animaux. En France, jusqu'alors, les mauvais traitements des animaux n'étaient condamnés qu'en fonction du préjudice qui était fait à leurs propriétaires. En 1843, le préfet de police interdit déjà aux cochers de frapper les chevaux avec le manche de leur fouet. La SPA a été créée en 1846, après l'Angleterre, qui était bien en avance sur ce sujet, et la loi Gramont comporte un article unique. Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs et pourront l'être d'un à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement le mauvais traitement envers les animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive. La loi Gramont était avant tout destinée à la protection des chevaux en service dans les grandes villes. Je vais aborder maintenant un aspect encore moins agréable. L'inquiétude face aux nuisances infectieuses ou seulement olfactives date en France du début du XVIIIe siècle, sans doute à cause de la chimie et avec l'action de médecins, comme on va le voir. Au XIXe siècle, d'énormes quantités de chevaux morts se retrouvaient dans les voiries. Une voirie, à l'époque, c'était un lieu où l'on portait les ordures et les déchets de toutes sortes, dont les excréments des habitants, comme je l'ai déjà dit, les animaux morts impropres à la consommation. Dans celle de Montfaucon, dans le secteur des anciennes carrières d'Amérique vers l'actuel marché Secrétan près des buts de Chaumont, le gibet de Montfaucon, c'était place du colonel Fabien, mais là, la voirie était plus haut. Il y avait d'immenses bassins de vidange et de décantation. Ça partait de ce qu'on appelait à l'époque la Patte d'Oie, c'est-à-dire la rue Manin, devant le parc des Boutons. Et ça descendait vers la Petite Villette, c'est-à-dire dans le coin de l'avenue Jean Jaurès. Alors là, vous aviez des étages, et puis ce qui était liquide coulait jusqu'en bas, le reste séchait, remuait, ça séchait, tout ça. Bon. Et ça devenait ce qu'on appelle de la poudrette. Il y a un plan où on doit voir le nom poudrette de Montfaucon. La voirie était le domaine des rats. Si un cheval mort était laissé dehors, pendant une nuit, le lendemain matin, il n'y avait plus que la carcasse. Quelqu'un a compté 2500 rats tués en une nuit par les équarisseurs. La peau des rats se vendait. Alors, parent du Châtelet, 1790-1836, c'est un médecin hygiéniste qui a fait des rapports pour le gouvernement et il s'est occupé en particulier des égouts, des chevaux et de la prostitution. Alain Corbin a édité ce livre, qu'on trouve en livre de poche, et il en a écrit un lui-même. Et il disait, parent du Châtelet, « Rien ne peut être comparé à l'infection produite par les voiries. Tout y annonce la négligence et la barbarie, leur aspect seul fait reculer d'horreur. » Néanmoins, il fait preuve de tolérance, bizarrement, et certainement d'après moi avec des pressions du gouvernement. Il déclare dans un article « Entre le désagrément et une insalubrité, la différence est grande ». Alors, il est vrai que si ça sent mauvais, c'est pas nécessairement le signe d'une infection. Moi, j'aime bien le maroilles, par exemple. Alors, les odeurs pestilentielles qui émanaient de la voirie étaient insupportables. Quand le vent soufflait du nord, tout Paris en était incommodé. Tout le monde était incommodé par ces odeurs. Il y avait des exceptions. Par exemple, le poète Stéphane Mallarmé écrivait « Je suis le malade des bruits et m'étonne que presque tout le monde répugne aux odeurs mauvaises, moins aux cris ». On peut supposer qu'il n'allait pas se promener au-delà de la gare Saint-Lazare ou de la place de Clichy. Bon, malgré les actions des riverains, la voirie de Montfaucon a sévi jusqu'en 1849. Elle a été déplacée dans la forêt de Bondy. Les chevaux réformés ou crevés étaient donc conduits au clos d'écarissage de la voirie. Alors l'écarissage, ça consiste à dépecer les animaux morts. Les cadavres étaient amenés de Paris sur des charrettes. L'écarisseur pouvait également enlever tout cheval, mort ou agonisant, sur la voie publique. Les vivants, condamnés à l'écarissage, n'étaient pas nourris pendant plusieurs jours par souci d'économie. Et puis, il y avait des commerçants en particulier qui venaient acheter des chevaux à la voirie. Alors, près de 13 000 chevaux étaient écaris chaque année à la voirie de Montfaucon, qui était la plus grande de Paris. Et il y avait toute une économie de l'écarissage. Boyaudier, asticotier, poudreteux, c'était les noms appétissants, des métiers profitant de l'écarissage. Il y avait aussi les ravageurs, les chauffourniers, les débardeurs qui assuraient la vidange des tinettes, les teinturiers, des chiffonniers, des carriers, des briquetiers. La chair des chevaux était destinée aux chiens ou vendue dans les quartiers pauvres. Ben voyons. Les intestins, les abats étaient destinés aux engrais. La peau pour les tanneurs. Le crin s'il en restait. Sur les pauvres bêtes étaient récupérées et vendues aux bourreliers, aux tapissiers. Les vers étaient vendus aux pêcheurs et aux volaillers. Il y avait un vrai commerce du ver. Voici pour compléter un extrait du journal des connaissances utiles rédigées par un monsieur qui s'appelle Léo Mabmassien en 1836.
Pour abattre les chevaux qui leur sont vendus ou amenés vivants, les écarisseurs employaient trois manières différentes. On saigne l'animal en ouvrant l'aorte avec un couteau ou bien en le plongeant entre l'occipital et la première vertèbre jusque dans la moelle épinière. D'autres fois, on les assomme. Une fois abattu, on dépouille l'animal en lui faisant une incision longitudinale depuis le milieu de la mâchoire inférieure jusqu'à l'anus. On lui enlève la peau avec un très grand soin. Les tendons et les pieds sont vendus encore frais aux fabricants de colles fortes. Les sabots et les cornes passent aux aplatisseurs pour les fabricants de peignes. Quant à la graisse, elle est extraite avec le plus grand soin. Elle est fort utile pour les lampes des mailleurs parce qu'elle ne donne point de fumée. Les hongroyeurs et les bourreliers en font usage avec avantage pour assouplir les cuits. Enfin, les os sont vendus aux fabricants de produits ammoniacaux et de noir animal. Les écarisseurs passent habituellement 7 à 8 heures à retirer la graisse qui se trouve autour des muscles et des boyaux d'un cheval en bon état. Monsieur Payen fait couper la viande par morceaux, casser les os, et le tout est bouilli avec de l'eau dans une chaudière. On retire l'huile au fur et à mesure qu'elle surnage à la surface du liquide.
Bizarrement, le clos d'écarissage, qui avait été interdit à Paris, furent à nouveau autorisés en 1872. Il y a un livre vraiment très bon de Parent du Châtelet qui s'appelle « Des chantiers d'écarissage », 1832. Et pour terminer, après vous avoir mis en appétit, je vais vous parler d'hypophagie. Depuis le XVIIe siècle, il était interdit de manger de la viande de cheval, sauf en période de disette. Elle était réservée aux soldats en guerre, lorsqu'il manquait de ravitaillement, et aux chiens. Les classes aisées se sont longtemps opposées à l'hypophagie qui était considérée comme une régression de la civilisation, le cheval étant un animal d'essence supérieure. Et depuis toujours, l'Église s'opposait également à l'hypophagie. Parent du Châtelet utilise en 1832 un argument sanitaire pour justifier l'hypophagie. Si la viande de cheval devient une denrée alimentaire classique, les contrôles sanitaires seront facilités et les ateliers d'écarissage cesseront d'être des sources de trafic clandestin. Isidore Geoffroy de Saint-Hilaire, zoologiste, et Émile de Croix, vétérinaire, qui a donné son nom à l'abattoir du Sud, là, sont également des promoteurs de l'hypophagie. Alors les arguments en faveur d'hypophagie, en plus de celui de Parent du Châtelet, la viande de cheval coûte deux fois moins cher que la viande de bœuf. Avec l'hypophagie, on évite aux chevaux d'être exploités jusqu'à leur dernier souffle. Et le cheval et la viande de cheval sont dispensés de droits d'octroi. Qui mangeait de la viande de cheval ? Des ouvriers, des petits employés. On en proposait dans les restaurants populaires. Mais une grande partie de la population préférait tout de même le bœuf. À noter que la SPA a soutenu l'hypophagie. Une ordonnance de 1866 permet de vendre de la viande de cheval, donc il y a une création d'abattoirs hypophagiques. Pendant le siège de Paris, en 70-71, donc, 30 000 chevaux ont été mangés en quelques mois, en 2-3 mois. Déjà, pendant la révolution de 89, on avait mangé des chevaux. Donc l'hypophagie finit par beaucoup se développer durant le dernier tiers du 19e siècle. Les bouchers de cheval, de plus en plus nombreux, ont même créé un syndicat dans les années 80, et je crois en partie pour résister aux attaques des bouchers généraux. Alors il y avait des histoires d'antisémitisme, il y a des problèmes que je n'ai pas complètement compris. Maxime Ducamp vous parle de ça très très bien.
Les boucheries hypophagiques persistent. On en compte 50 actuellement, soit en boutique, soit dans les marchés au détail. En 1875, on a abattu 7634 chevaux, 692 ânes et 66 mulets, parmi lesquels un mulet, 5 ânes et 104 chevaux ont été saisis pour cause d'insalubrité. La viande de cheval, dont on a été forcé de se contenter pendant le siège, ne paraît décidément pas être du goût de la population. On l'écoule surtout à l'aide de fausses étiquettes chez les gargotiers sous forme de saucissons. Ces sortes de fraudes sont surveillées de très près par le service de l'inspection.
Les boucheries chevalines se trouvaient donc principalement dans les arrondissements ouvriers. En 1906, un recensement a fourni 36 boucheries dans le 20e arrondissement, 15% de Paris, donc dans le 20e. Bon, je passe sur les abattoirs hypophagiques. Il y avait l'abattoir privé de Pantin. On disait la tuerie de Pantin. Ça. Il y a eu les abattoirs de Villejuif à l'Ensam. Mais pour terminer, je voudrais vous parler du film de Georges Franju, Le sang des bêtes. Si on peut le voir sur Internet, 1949. C'est absolument insupportable. Ça, ce sont des photogrammes du film de Franju. Si vous voulez une conclusion en plus, je mange encore moins de cheval qu'avant. Voilà.
Merci.
De nous avoir écoutés. Les omnibus, il y avait deux chevaux, mais pas plus finalement que les fiacres. Mais les fiacres, ça pesait une tonne, un fiacre.
Mais il y avait des élevages donc.
Bon, alors là, c'est un sujet énorme. Il y avait des départements qui s'étaient consacrés à l'élevage des chevaux, les chevaux de demi-trait, les chevaux de trait, et puis les chevaux de course, quoi. Alors il y a eu d'abord les chevaux anglais, et puis. Les Français se sont mis à élever des chevaux de course. Ils ont fait la pige aux Anglais assez vite.
Est-ce qu'il y avait un petit peu de règles de circulation ?
Ah oui. En lisant ces livres et ces articles, on voit très très souvent la préfecture de police qui intervient dans tous les... Il y avait... Crafty, par exemple, décrit des accidents dû aux omnibus qui ne laissent pas la place aux fiacres, enfin bon, il mérite d'être lu, même si son point de vue est complètement aristocratique. Finalement, avec Maxime Ducamp, c'est vraiment un témoin incroyable de la circulation à Paris. Il écrivait dans les journaux, mais il a écrit essentiellement ses bouquins, quoi. Les chevaux trottaient quand c'était possible, quoi.
Mais à propos de règlement, aujourd'hui, on peut se promener avec un cheval dans Paris. Hein. Il n'y a aucun règlement qui l'interdit.
On peut même, deux chevaux peuvent même de front se déplacer à Paris.
À condition de respecter
le code de la route.
Voilà. Il n'y a pas d'interdiction de se balader à Avenue de l'Opéra avec un cheval. Quoi.
Tu nous as montré une photo où on voyait ces chevaux qui buvaient
à
une fontaine dédiée aux chevaux ou aux bœufs. J'imagine qu'on devait en trouver un
certain nombre. Oui, il y en avait beaucoup. Un des rares qui reste, qu'on a vu, c'est dans la poste de la rue Jean-Baptiste Pigalle. Dans ce coin-là, il y avait...
Mais c'est pas à la Villette où il y a une sorte de fontaine comme ça?
Celui-là, c'était une ancienne fontaine qui se trouvait d'abord place du Château d'Eau.
On trouve assez peu de photos d'abreuvoir.
Et les références, les écrivains, ouais. Tout ça, sera sur le site.
Dans les romans, il est assez peu question de chevaux. Il y a Zola, bon, Victor Hugo, mais les Anglais, par exemple, Jane Austen, il est très souvent question de voitures particulières.
Dans les mystères de Paris, plusieurs fois, ils prennent le fiacre à cheval.
Eugène Sue, ça fait partie de ces écrivains qui vous font quand même un petit peu sentir qu'il y en avait partout. C'était, mais vous vous rendez compte, 23 chevaux pour tirer la turbine, là, c'est fou.
Il y a eu une exposition sur le transport de l'obélisque depuis l'Égypte jusqu'à la place de la Concorde, vers 1833-34, par là, qui s'est tenue au musée de la Marine. Et il y avait donc des naquettes qui montraient tous les attelages et pour le transporter à terre.